Henri Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. Sur le côté oriental de la montagne qui s'élève derrière le port Louis de l'Île-de-France, on voit dans un terrain jadis cultivé les ruines de deux petites cabanes. Elles sont situées presque au milieu d'un bassin formé par de grands rochers qui n'a qu'une seule ouverture tournée au nord. On aperçoit à gauche la montagne appelée le Morne de la Découverte, d'où l'on signale les vaisseaux qui abordent dans l'île, et au bas de cette montagne, la ville nommée le Port-Louis. À droite, le chemin qui mène du Port-Louis au quartier des Pamplemousses, ensuite l'église de ce nom, qui s'élève avec ses avenues de bambous au milieu d'une grande plaine, et plus loin, une forêt qui s'étend jusqu'aux extrémités de l'île. On distingue devant soi, sur les bords de la mer, la baie du Tombeau, un peu sur la droite le cap Malheureux, et au-delà la pleine mer où paraissent à fleur d'eau quelques îlots inhabités, entre autres le coin de Mire qui ressemble à un bastion au milieu des flots. À l'entrée de ce bassin d'où l'on découvre tant d'objets, les échos de la montagne répètent sans cesse le bruit des vents qui agitent les forêts voisines et le fracas des vagues qui bistent au loin sur les récifs. Mais au pied même des cabanes, on n'entend plus aucun bruit et on ne voit autour du soir que de grands rochers escarpés comme des murailles. Des bouquets d'arbres croissent à leur base, dans leur fente et jusque sur leur cime où s'arrêtent les nuages. Les pluies que leurs pitons attirent peignent souvent les couleurs de l'arc-en-ciel sur leurs flancs verts et bruns et entretiennent à leurs pieds les sources dont se forme la petite rivière des Lataniers. Un grand silence règne dans leur enceinte où tout est paisible, l'air, les eaux et la lumière. À peine l'écho y répète le murmure des palmistes qui croissent sur leurs plateaux élevés et dont on voit les longues flèches toujours balancées par les vents. Un jour doux éclaire le fond de ce bassin où le soleil ne luit qu'à midi, mais dès l'aurore, ses rayons frappent le couronnement dont les pics s'élevant au-dessus des ombres de la montagne paraissent d'or et de pourpre sur l'azur des cieux. J'aimais à me rendre dans ce lieu où l'on jouit à la fois d'une vue immense et d'une solitude profonde. Un jour que j'étais assis au pied de ces cabanes et que j'en considérais les ruines, un homme, déjà sur l'âge, vint à passer aux environs. Il était, suivant la coutume des anciens habitants, en petite veste et en long caleçon. Il marchait nu-pieds et s'appuyait sur un bâton de bois d'ébène. Ses cheveux étaient tout blancs, et sa physionomie noble et simple. Je le saluai avec respect. Il me rendit mon salut, et m'ayant considéré un moment, il s'approcha de moi et vint se reposer sur le tertre où j'étais assis. Excité par cette marque de confiance, je lui adressai la parole. « Mon père, lui dis-je, pourriez-vous m'apprendre à qui ont appartenu ces deux cabanes ?» Il me répondit, « Mon fils, ces masures et ce terrain inculte étaient habités il y a environ 20 ans par deux familles qui y avaient trouvé le bonheur. Leur histoire est touchante, mais dans cette île, située sur la route des Indes, quel Européen peut s'intéresser au sort de quelques particuliers obscurs ? Qui voudrait même y vivre heureux, mais pauvre et ignoré. Les hommes ne veulent connaître que l'histoire des grands et des rois, qui ne sert à personne. Mon père, repris-je, il est aisé de juger à votre air et à votre discours que vous avez acquis une grande expérience. Si vous en avez le temps, racontez-moi, je vous prie, ce que vous savez des anciens habitants de ce désert, et croyez que, L'homme même le plus dépravé par les préjugés du monde aime à entendre parler du bonheur que donne la nature et la vertu. Alors, comme quelqu'un qui cherche à se rappeler diverses circonstances, après avoir appuyé quelque temps ses mains sur son front, voici ce que ce vieillard me raconta. En 1726, un jeune homme de Normandie, appelé Monsieur de la Tour, après avoir sollicité en vain du service en France et des secours dans sa famille, se détermina à venir dans cette île pour y chercher fortune. Il avait avec lui une jeune femme qu'il aimait beaucoup et dont il était également aimé. Elle était d'une ancienne et riche maison de sa province, mais il l'avait épousée en secret et sans dot, parce que les parents de sa femme s'étaient opposés à son mariage, attendu qu'il n'était pas gentilhomme. Il la laissa au port Louis de cette île, et il s'embarqua pour Madagascar dans l'espérance d'y acheter quelques noirs et de revenir promptement ici former une habitation. Il débarqua à Madagascar vers la mauvaise saison qui commence à la mi-octobre, et peu de temps après son arrivée, il y mourut des fièvres pestilentielles qui règnent pendant 6 mois de l'année et qui empêcheront toujours les nations européennes d'y faire des établissements libres. Les effets qu'il avait emportés avec lui furent dispersés après sa mort, comme il arrive ordinairement à ceux qui meurent hors de leur patrie. Sa femme, restée à l'île de France, se trouva veuve, enceinte, et n'ayant pour tout bien au monde qu'une négresse dans un pays où elle n'avait ni crédit ni recommandation. Ne voulant rien solliciter auprès d'aucun homme après la mort de celui qu'elle avait uniquement aimé, son malheur lui donna du courage. Elle résolut de cultiver avec son esclave un petit coin de terre afin de se procurer de quoi vivre. Dans une île presque déserte, dont le terrain était à discrétion, elle ne choisit point les cantons les plus fertiles ni les plus favorables au commerce, mais, cherchant quelques gorges de montagne, quelque asile caché où elle put vivre seule et inconnue, elle s'achemina de la ville vers ces rochers pour s'y retirer comme dans un nid. C'est un instinct commun à tous les êtres sensibles et souffrants de se réfugier dans les lieux les plus sauvages et les plus déserts. Comme si les rochers étaient des remparts contre l'infortune, et comme si le calme de la nature pouvait apaiser les troubles malheureux de l'âme. Mais la Providence, qui tient à notre secours lorsque nous ne voulons que les biens nécessaires, en réservait un, Madame de la Tour, que ne donnent ni les richesses ni la grandeur. C'était une amie. Dans ce lieu, depuis un an, demeurait une femme vive, bonne et sensible. Elle s'appelait Marguerite. Elle était née en Bretagne, d'une simple famille de paysans, dont elle était chérie et qui l'aurait rendue heureuse si elle n'avait eu la faiblesse d'ajouter foi à l'amour d'un gentilhomme de son voisinage qui lui avait promis de l'épouser. Mais celui-ci, ayant satisfait sa passion, s'éloigna d'elle et refusa même de lui assurer une subsistance pour un enfant dont il l'avait laissée enceinte. Elle s'était déterminée alors à quitter pour toujours le village où elle était née et à aller cacher sa faute aux colonies, loin de son pays, où elle avait perdu la seule dot d'une fille pauvre et honnête, la réputation. Un vieux noir qu'elle avait acquis de quelques deniers empruntés cultivait avec elle un petit coin de ce canton. Madame de la Tour, suivie de sa négresse, trouva dans ce lieu Marguerite qui allaitait son enfant. Elle fut charmée de rencontrer une femme dans une position qu'elle jugea semblable à la sienne. Elle lui parla en peu de mots de sa condition passée et de ses besoins présents. Marguerite, au récit de Madame de la Tour, fut émue de pitié. et voulant mériter sa confiance plutôt que son estime, elle lui avoua, sans lui rien déguiser, l'imprudence dont elle s'était rendue coupable. « Pour moi, dit-elle, j'ai mérité mon sort, mais vous, madame, vous, sage et malheureuse. » Et elle lui offrit en pleurant sa cabane et son amitié. Madame de la Tour, touchée d'un accueil si tendre, lui dit en la serrant dans ses bras, « Ah, Dieu veut finir mes peines, puisqu'il vous inspire plus de bonté envers moi, qui vous suis étrangère, que jamais je n'en ai trouvé dans mes parents. Je connaissais Marguerite, et quoique je demeure à une lieue et demie d'ici, dans les bois, derrière la montagne longue, je me regardais comme son voisin. Dans les villes d'Europe, une rue, un simple mur, empêchent les membres d'une même famille de se réunir pendant des années entières. Mais dans les colonies nouvelles, on considère comme ses voisins ceux dont on n'est séparé que par des bois et par des montagnes. Dans ce temps-là surtout, où cette île faisait peu de commerce aux Indes, le simple voisinage y était un titre d'amitié et l'hospitalité envers les étrangers un devoir et un plaisir. Lorsque j'appris que ma voisine avait une compagne, je fus la voir pour tâcher d'être utile à l'une et à l'autre. Je trouvais dans Madame de la Tour une personne d'une figure intéressante, pleine de noblesse et de mélancolie. Elle était alors sur le point d'accoucher. Je dis à ces deux dames qu'il convenait pour l'intérêt de leurs enfants, et surtout pour empêcher l'établissement de quelque autre habitant de partager entre elles le fond de ce bassin qui contient environ 20 arpents. Elles s'en rapportèrent à moi pour ce partage. J'en formais 2 portions à peu près égales. L'une renfermait la partie supérieure de cette enceinte depuis le piton de rocher couvert de nuages d'où sort la source de la rivière des Lataniers, jusqu'à cette ouverture escarpée que vous voyez au haut de la montagne et qu'on appelle l'embrasure parce qu'elle ressemble en effet à une embrasure de canon. Le fond de ce sol est si rempli de roches et de ravins qu'à peine on y peut marcher. Cependant, il produit de grands arbres et il est rempli de fontaines et de petits ruisseaux. Dans l'autre portion, je compris toute la partie inférieure qui s'étend le long de la rivière des Lataniers jusqu'à l'ouverture où nous sommes, d'où cette rivière commence à couler entre 2 collines jusqu'à la mer. Vous y voyez quelques lisières de prairies et un terrain assez uni, mais qui n'est guère meilleur que l'autre, car dans la saison des pluies, il est marécageux, et dans les sécheresses, il est dur comme du plomb. Quand on y veut alors ouvrir une tranchée, on est obligé de le couper avec des haches. Après avoir fait ces 2 partages, j'engageai ces 2 dames à les tirer au sort. La partie supérieure échut à Madame de la Tour et l'inférieure à Marguerite. L'une et l'autre furent contentes de leur lot, mais elles me prièrent de ne pas séparer leur demeure. Afin, me dirent-elles, que nous puissions toujours nous voir, nous parler et nous entraider. Il fallait cependant à chacune d'elles une retraite particulière. La case de Marguerite se trouvait au milieu du bassin, précisément sur les limites de son terrain. Je bâtis, tout auprès, sur celui de Madame de la Tour, une autre case, en sorte que ces 2 amies étaient à la fois dans le voisinage l'une de l'autre, et sur la propriété de leur famille. Moi-même, j'ai coupé des palissades dans la montagne, j'ai apporté des feuilles de latanier des bords de la mer pour construire ces 2 cabanes où vous ne voyez plus maintenant ni porte ni couverture. Hélas, il n'en reste encore que trop pour mon souvenir. Le temps qui détruit si rapidement les monuments des empires, semble respecter dans ces déserts ceux de l'amitié pour perpétuer mes regards jusqu'à la fin de ma vie. À peine la seconde de ces cabanes était achevée que Madame de la Tour accoucha d'une fille. J'avais été le parrain de l'enfant de Marguerite, qui s'appelait Paul. Madame de la Tour me pria aussi de nommer sa fille conjointement avec son amie. Celle-ci lui donna le nom de Virginie. « Elle sera vertueuse, dit-elle, et elle sera heureuse. Je n'ai connu le malheur qu'en m'écartant de la vertu. » Lorsque Madame de la Tour fut relevée de ses couches, ces deux petites habitations commencèrent à être de quelque rapport, à l'aide des soins que j'y donnais de temps en temps, mais surtout par les travaux assidus de leurs esclaves. Celui de Marguerite, appelé Domingue, était un noir yolof, encore robuste, quoique déjà sur l'âge. Il avait de l'expérience et un bon sens naturel. Il cultivait indifféremment sur les deux habitations les terrains qui lui semblaient les plus fertiles, et il y mettait les semences qui leur convenaient le mieux. Il semait du petit mil et du maïs dans les endroits médiocres, un peu de froment dans les bonnes terres, du riz dans les fonds marécageux, et au pied des roches, des giraumons, des courges et des concombres qui se plaisent à y grimper. Il plantait dans les lieux secs des patates qui viennent très sucrées, des cotonniers sur les hauteurs, des cannes à sucre dans les terres fortes, des pieds de café sur les collines où le grain est petit mais excellent. Le long de la rivière et autour des cases, des bananiers qui donnent toute l'année de longs régimes de fruits avec un bel ombrage, et enfin quelques plantes de tabac pour charmer ses soucis et ceux de ses bonnes maîtresses. Il allait couper du bois brûlé dans la montagne et casser des roches çà et là dans les habitations pour en aplanir les chemins. Il faisait tous ses ouvrages avec intelligence et activité, parce qu'il les faisait avec zèle. Il était fort attaché à Marguerite, et il ne l'était guère moins à Madame de la Tour, dont il avait épousé la négresse à la naissance de Virginie. Il aimait passionnément sa femme, qui s'appelait Marie. Elle était née à Madagascar, d'où elle avait apporté quelque industrie, surtout celle de faire des paniers et des étoffes appelées pagnes, avec des herbes qui croissent dans les bois. Elle était adroite, propre et très fidèle. Elle avait soin de préparer à manger, d'élever quelques poules, et d'aller de temps en temps vendre au Port-Louis le superflu de ses deux habitations, qui était bien peu considérable. Si vous y joignez deux chèvres élevées près des enfants, et un gros chien qui veillait la nuit au dehors, vous aurez une idée de tout le revenu et de tout le domestique de ces deux petites métairies. Pour ses deux amis, elle filait du matin au soir du coton. Ce travail suffisait à leur entretien et à celui de leur famille. Mais d'ailleurs, elles étaient si dépourvues de commodités étrangères qu'elles marchaient du pied dans leur habitation et ne portaient de souliers que pour aller le dimanche de grand matin à la messe à l'église des Pamplemousses que vous voyez là-bas. Il y a cependant bien plus loin qu'au Port-Louis, mais elles se rendaient rarement à la ville, de peur d'y être méprisées parce qu'elles étaient vêtues de grosses toiles bleues du Bengale comme des esclaves. Après tout, la considération publique vaut-elle le bonheur domestique? Si ces dames avaient un peu à souffrir au dehors, elles rentraient chez elles avec d'autant plus de plaisir. À peine Marie et Domingue les apercevaient de cette hauteur sur le chemin des Pamplemousses qu'ils accouraient jusqu'au bas de la montagne pour les aider à la remonter. Elle lisait dans les yeux de leurs esclaves la joie qu'ils avaient de les revoir. Elle trouvait chez elle la propreté, la liberté, des biens qu'elle ne devait qu'à leurs propres travaux et des serviteurs pleins de zèle et d'affection. Elle-même, unie par les mêmes besoins, ayant éprouvé des maux presque semblables, se donnant les doux noms d'amis, de compagnes et de sœurs, n'avait qu'une volonté, qu'un intérêt et qu'une table. Tout entre elles était commun. Seulement, si d'anciens feux, plus vifs que ceux de l'amitié, se réveillaient dans leur âme, une religion pure, aidée par des mœurs chastes, les dirigeait vers une autre vie, comme la flamme qui s'envole vers le ciel lorsqu'elle n'a plus d'aliment sur la terre. Les devoirs de la nature ajoutaient encore au bonheur de leur société. Leur amitié mutuelle redoublait à la vue de leurs enfants, fruit d'un amour également infortuné. Elle prenait plaisir à les mettre ensemble dans le même bain et à les coucher dans le même berceau. Souvent, elle les changeait de lait. « Mon ami, disait Madame de la Tour, chacune de nous aura deux enfants, et chacun de nos enfants aura deux mères. » Comme deux bourgeons qui restent sur deux arbres de la même espèce, dont la tempête a brisé toutes les branches, viennent à produire des fruits plus doux, si chacun d'eux détaché du tronc maternel est greffé sur le tronc voisin, ainsi, ces deux petits enfants, privés de tous leurs parents, se remplissaient de sentiments plus tendres que ceux de fils et de filles, de frères et de sœurs. Quand ils venaient à être changés de mamelles par les deux amis qui leur avaient donné le jour. Déjà leur mère parlait de leur mariage sur leur berceau, et cette perspective de félicité conjugale, dont elles charmaient leur propre peine, finissait bien souvent par les faire pleurer. L'une, se rappelant que ces maux étaient venus d'avoir négligé l'hymen, et l'autre d'en avoir subi les lois. L'une, de s'être élevée au-dessus de sa condition, et l'autre d'en être descendue, mais elles se consolaient en pensant qu'un jour, leurs enfants, plus heureux, jouiraient à la fois, loin des cruels préjugés de l'Europe, des plaisirs de l'amour et du bonheur de l'égalité. Rien, en effet, n'était comparable à l'attachement qu'il se témoignait déjà. Si Paul venait à se plaindre, on lui montrait Virginie. À sa vue, il souriait et s'apaisait. Si Virginie souffrait, on en était averti par les cris de Paul. Mais cette aimable fille dissimulait aussitôt son mal pour qu'il ne souffrît pas de sa douleur. Je n'arrivais point de fois ici que je ne les visse tous deux tout nus, suivant la coutume du pays, pouvant à peine marcher, se tenant ensemble par les mains et sous les bras, comme on représente la constellation des Gémeaux. La nuit même ne pouvait les séparer. Elle les surprenait souvent, couchés dans le même berceau, joue contre joue, poitrine contre poitrine, les mains passées mutuellement autour de leur cou et endormies dans les bras l'un de l'autre. Lorsqu'ils surparlaient, les premiers noms qu'ils apprirent à se donner furent ceux de frères et de sœurs. L'enfance, qui connaît des caresses plus tendres, ne connaît point de plus doux noms. Leur éducation ne fit que redoubler leur amitié en la dirigeant vers leurs besoins réciproques. Bientôt, tout ce qui regarde l'économie, la propreté, le soin de préparer un repas champêtre, fut du ressort de Virginie, et ses travaux étaient toujours suivis des louanges et des baisers de son frère. Pour lui, sans cesse en action, il bêchait le jardin avec Domingue, ou, une petite hache à la main, il le suivait dans les bois. Et si dans ses courses une belle fleur, un bon fruit ou un nid d'oiseau se présentait à lui, eût-il été au haut d'un arbre, il l'escaladait pour les apporter à sa sœur. Quand on en rencontrait un quelque part, on était sûr que l'autre n'était pas loin. Un jour que je descendais du sommet de cette montagne, j'aperçus à l'extrémité du jardin Virginie qui accourait vers la maison, la tête couverte de son jupon qu'elle avait relevé par derrière, pour se mettre à l'abri d'une ondée de pluie. De loin, je la crus seule. Et m'étant avancé vers elle, pour l'aider à marcher, je vis qu'elle tenait Paul par le bras, enveloppé presque en entier de la même couverture, riant l'un et l'autre d'être ensemble à l'abri sous un parapluie de leur invention. Ces deux têtes charmantes, enfermées sous ce jupon bouffant, me rappelèrent les enfants de Léda, enclos dans la même coquille. Toute leur étude était de se complaire et de s'entraider. Au reste, ils étaient ignorants comme des créoles et ne savaient ni lire ni écrire. Ils ne s'inquiétaient pas de ce qui s'était passé dans des temps reculés et loin d'eux. Leur curiosité ne s'étendait pas au-delà de cette montagne. Ils croyaient que le monde finissait ou finissait leur île, et ils n'imaginaient rien d'aimable où ils n'étaient pas. Leur affection mutuelle et celle de leur mère occupaient toute l'activité de leurs âmes. Jamais des sciences inutiles n'avaient fait couler leurs larmes. Jamais les leçons d'une triste morale ne les avaient remplies d'ennui. Ils ne savaient pas qu'il ne faut pas dérober tout étant chez eux et commun, et ni être intempérant, ayant à discrétion d'aimer simple, ni menteur, n'ayant aucune vérité à dissimuler. On ne les avait jamais effrayés en leur disant que Dieu réserve des punitions terribles aux enfants ingrats. Chez eux, l'amitié filiale était née de l'amitié maternelle. On ne leur avait appris de la religion que ce qui l'a fait aimer, et s'ils n'offraient pas à l'église de longues prières, partout où ils étaient, dans la maison, dans les champs, dans les bois, ils levaient vers le ciel des mains innocentes et un cœur plein de l'amour de leurs parents. Ainsi se passa leur première enfance comme une belle aube qui annonce un plus beau jour. Déjà, ils partageaient avec leur mère tous les soins du ménage. Dès que le chant du coq annonçait le retour de l'aurore, Virginie se levait, allait puiser de l'eau à la source voisine et rentrait dans la maison pour préparer le déjeuner. Bientôt après, quand le soleil dorait les pitons de cette enceinte, Marguerite et son fils se rendaient chez Madame de la Tour. Alors, ils commençaient tous ensemble une prière suivie du premier repas. Souvent, ils le prenaient devant la porte, assis sur l'herbe, sous un berceau de bananiers, qui leur fournissait à la fois des mets tout préparés dans leurs fruits substantiels et du linge de table dans leurs feuilles larges, longues et lustrées. Une nourriture saine et abondante développait rapidement les corps de ces deux jeunes gens, et une éducation douce peignait dans leur physionomie la pureté et le contentement de leur âme. Virginie n'avait que 12 ans. Déjà, sa taille était plus qu'à demi formée. De grands cheveux blonds ombrageaient sa tête, ses yeux bleus et ses lèvres de corail brillaient du plus tendre éclat sur la fraîcheur de son visage. Ils soudaient toujours de concert quand elle parlait, mais quand elle gardait le silence, leur obliquité naturelle vers le ciel leur donnait une expression d'une sensibilité extrême et même celle d'une légère mélancolie. Pour Paul, on voyait déjà se développer en lui le caractère d'un homme au milieu des grâces de l'adolescence. Sa taille était plus élevée que celle de Virginie, son teint plus rembruni, son nez plus aquilin, et ses yeux, qui étaient noirs, auraient eu un peu de fierté si les longs cils qui rayonnaient autour comme des pinceaux ne leur avaient donné la plus grande douceur. Quoiqu'il fût toujours en mouvement, dès que sa sœur paraissait, il devenait tranquille et allait s'asseoir auprès d'elle. Souvent, leur repas se passait sans qu'ils se disent un mot. À leur silence, à la naïveté de leurs attitudes, à la beauté de leurs pieds nus, on eût cru voir un groupe antique de marbre blanc représentant quelques-uns des enfants de Niobé. Mais à leurs regards, qui cherchaient à se rencontrer, à leurs sourires rendus par le plus doux sourire, on les eût pris pour ces enfants du ciel, pour ces esprits bienheureux dont la nature est de s'aimer et qui n'ont pas besoin de rendre le sentiment par des pensées et l'amitié par des paroles. Cependant, Madame de La Tour, voyant sa fille se développer avec tant de charme, sentait augmenter son inquiétude avec sa tendresse. Elle me disait quelquefois, « Si je venais à mourir, que deviendrait Virginie sans fortune ?» Elle avait en France une tante, fille de qualité, riche, vieille et dévote, qui lui avait refusé si durement des secours lorsqu'elle se fut mariée à M. de La Tour, qu'elle s'était bien promis de n'avoir jamais recours à elle, à quelque extrémité qu'elle fût réduite. Mais, devenue mère, elle ne craignit plus la honte des refus. Elle manda à sa tante la mort inattendue de son mari, la naissance de sa fille et l'embarras où elle se trouvait, loin de son pays, dénuée de support et chargée d'un enfant. Elle n'en reçut point de réponse. Elle, qui était d'un caractère élevé, ne craignit plus de s'humilier et de s'exposer aux reproches de sa parente qui ne lui avait jamais pardonné d'avoir épousé un homme sans naissance, quoique vertueux. Elle lui écrivait donc par toutes les occasions afin d'exciter sa sensibilité en faveur de Virginie. Mais bien des années s'étaient écoulées sans recevoir d'elle aucune marque de souvenir. Enfin, en 1738, 3 ans après l'arrivée de M. de La Bourdonnais dans cette île, Madame de La Tour apprit que ce gouverneur avait à lui remettre une lettre de la part de sa tante. Elle courut au Port-Louis, sans se soucier cette fois d'y paraître mal vêtue, la joie maternelle la mettant au-dessus du respect humain. M. de La Bourdonnais lui donna en effet une lettre de sa tante. Celle-ci mandait à sa nièce qu'elle avait mérité son sort pour avoir épousé un aventurier, un libertin, que les passions portaient avec elles leur punition, que la mort prématurée de son mari était un juste châtiment de Dieu, qu'elle avait bien fait de passer aux îles plutôt que de déshonorer sa famille en France, qu'elle était après tout dans un bon pays où tout le monde faisait fortune, excepté les paresseux. Après l'avoir ainsi blâmée, elle finissait par se louer elle-même. Pour éviter, disait-elle, les suites souvent funestes du mariage, elle avait toujours refusé de se marier. La vérité est qu'étant ambitieuse, elle n'avait voulu épouser qu'un homme de grande qualité, mais quoiqu'elle fût très riche et qu'à la cour on soit indifférent à tout excepté à la fortune, il ne s'était trouvé personne qui eût voulu s'allier à une fille aussi laide et à un cœur aussi dur. Elle ajoutait, par post-scriptum, que, toute réflexion faite, elle l'avait fortement recommandé à M. de La Bourdonnais. Elle l'avait en effet recommandé, mais suivant un usage bien commun aujourd'hui qui rend un protecteur plus à craindre qu'un ennemi déclaré. Afin de justifier auprès du gouverneur sa dureté pour sa nièce, en feignant de la plaindre, elle l'avait calomniée. Madame de la Tour, que tout homme indifférent n'eût pu voir sans intérêt et sans respect, fut reçue avec beaucoup de froideur par M. de la Bourdonnais, prévenu contre elle. Il ne répondit à l'exposé qu'elle lui fit de sa situation et de celle de sa fille que par de durs monosyllabes. « Je verrai, nous verrons, avec le temps. » Il y a bien des malheureux. Pourquoi indisposer une tante respectable? Oh, c'est vous qui avez tort. Madame de la Tour retourna à l'habitation, le cœur navré de douleur et plein d'amertume. En arrivant, elle s'assit, jeta sur la table la lettre de sa tante et dit à son amie : voilà le fruit de 11 ans de patience. Mais comme il n'y avait que Madame de la Tour qui sut lire dans la société, elle reprit la lettre et en fit la lecture devant toute la famille rassemblée. À peine était-elle achevée que Marguerite lui dit avec vivacité « Mais qu'avons-nous besoin de tes parents? Dieu nous a-t-il abandonnés? C'est lui seul qui est notre père. N'avons-nous pas vécu heureuses jusqu'à ce jour? Pourquoi donc te chagriner? Tu n'as point de courage. » Et, voyant Madame de la Tour pleurer, elle se jeta à son cou et la serrant dans ses bras. « Chère amie, s'écria-t-elle, chère amie !» Mais ses propres sanglots étouffèrent sa voix. À ce spectacle, Virginie, fondant en larmes, pressait alternativement les mains de sa mère et celles de Marguerite contre sa bouche et contre son cœur. Et Paul, les yeux enflammés de colère, criait, serrait les poings, frappait du pied, ne sachant à qui s'en prendre. À ce bruit, Domingue et Marie accoururent, et l'on n'entendit plus dans la case que ces cris de douleur. « Oh, madame, ma bonne maîtresse, ma mère, ne pleurez pas !» De si tendres marques d'amitié dissipèrent les chagrins de Madame de la Tour. Elle prit Paul et Virginie dans ses bras et leur dit d'un air content « Mes enfants, vous êtes cause de ma peine, mais vous faites toute ma joie. Oh, mes chers enfants, le malheur ne m'est venu que de loin, le bonheur est autour de moi. » Paul et Virginie ne la comprirent pas, mais quand ils la virent tranquille, ils sourirent et se mirent à la caresser. Ainsi, ils continuèrent tous d'être heureux, et ce ne fut qu'un orage au milieu d'une belle saison.